Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Pour cette édition en partenariat avec la revue Diplomatie dont le dernier numéro est consacré à la géopolitique des islamismes, état des lieux et reconfiguration éventuelle après le retour des talibans en Afghanistan et les questions qu'ils posent alors que l'on s'interroge sur ce qu'il reste d'Al-Qaïda, la victoire des talibans est considérée comme sienne par l'organisation qui se veut l'incarnation du djihad international et qui s'est transformée au fil des décennies en actrice de plusieurs insurrections à travers le monde, notamment dans la région du Sahel. Les talibans incarnent-ils une success story? Ont-ils des visées globales? L'Afghanistan leur offre-t-il une chance d'accroître leur propre influence dans la région et au-delà? 20 ans après les attentats du 11 septembre et l'intervention américaine en Afghanistan, 10 ans après le début des printemps arabes et alors que se poursuit à Paris le procès des attentats du Bataclan de 2015, regard sur la réalité et la complexité des formes d'islamisme actuel, les raisons pour lesquelles les sociétés du monde musulman vivent une islamisation continue et profonde, la civilisation arabo-musulmane est-elle en pleine transformation? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités en studio, Anne-Clémentine Larocque, analyste historienne pour la justice, spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales, auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de géopolitique des islamismes aux presses universitaires de France et le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam également aux presses universitaires de France. Bonjour, Clémentine Larocque.
Bonjour.
En duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Chambéry, Aouez Séniguer, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman et auteur de Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste aux éditions Au bord de l'eau. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Stéphane Lacroix, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po, chercheur aux séries de Sciences Po et auteur d'un ouvrage paru en anglais dont voici la traduction, Revisiter les printemps arabes, les politiques d'un moment révolutionnaire, paru aux presses universitaires d'Oxford, un ouvrage co-écrit avec Jean-Pierre Filliu. Bonjour Stéphane Lacroix.
Bonjour.
Alors que peut-on dire, Aouez Séniguer, de la question afghane, le retour des talibans dans ce pays et à la tête de l'Afghanistan? Est-ce que ce retour marque pour les talibans finalement une sorte de success story et que sait-on des visées des talibans aujourd'hui, Aouez Séniguer?
N'étant pas spécialiste des talibans, je serai prudent, mais me semble-t-il, il faut avoir à l'esprit trois préalables. Le premier préalable, c'est bien distinguer, comme le disent les internationalistes, le moralement souhaitable et le politiquement possible. Il se trouve qu'aujourd'hui, les talibans sont revenus au centre du jeu politique. Deuxième élément, ce n'est pas une surprise pour ceux qui s'intéressent au monde majoritairement musulman ou au monde arabe, ce retour des talibans. Dès 2010, j'avais eu accès à des documents qui m'avaient été donnés par l'ancien porte-parole des frères musulmans en Europe, Kamel Helbaoui, installé à Londres, une revue intitulée Islamism Digest, où il était question de dialogue qui commençait à naître entre Américains et talibans. Les Américains n'étant pas parvenus à battre en brèche le pouvoir et la force des talibans. Les Américains étant pragmatiques, devaient composer avec une force qui n'a jamais disparu, quand bien même la guerre leur a été faite. Et les Américains ont échoué, le gouvernement Karzai a échoué, en termes sécuritaires, en termes socio-économiques, etc. Ce qui a redynamisé les talibans alors qu'ils avaient peut-être perdu de la vitalité auparavant. En d'autres termes, la situation de conflit, la présence américaine a recrédibilisé les talibans auprès de forces religieuses qui pouvaient leur être hostiles. Troisième élément, et je m'arrêterai là, les talibans, il y a le religieux et le politique. Les talibans peuvent faire de la surenchère dans le champ religieux, en termes, je dirais, de rigorisme religieux, etc. Mais les talibans, c'est aussi des acteurs politiques et ils savent qu'ils devront composer avec un ordre politique sous la contrainte. Une contrainte interne, puisqu'il faut répondre aux aspirations d'un certain nombre de secteurs de la société afghane, et des contraintes externes du point de vue international pour, en quelque sorte, entrer en dialogue avec les forces internationales. Et ces trois éléments me semblent essentiels pour comprendre avec rigueur la situation, je dirais, actuelle.
Stéphane Lacroix, vous partagez ce que vient de dire Aouez Séniguer?
Oui, je suis globalement d'accord avec Awes. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut attendre des talibans et d'autres qu'il ne faut pas attendre. Ce qui a été négocié en amont avec les Américains à Doha, pendant donc ces années de négociations entre Américains et talibans, c'est que les talibans rompent le lien avec les mouvements djihadistes internationaux. Mmh. Et donc que les talibans deviennent ce qu'on pourrait appeler des islamo-nationalistes et plus des partisans d'un djihadisme international qui aurait des conséquences hors des frontières de l'Afghanistan. Et je pense que ça, on est en droit jusqu'à un certain point de l'attendre, même s'il y a encore beaucoup de questions. En revanche, pour ce qui est de la vision politique des talibans, elle restera fondamentalement conservatrice. Les talibans vont pas devenir du jour au lendemain des partisans des droits des femmes tels qu'on les entendrait ici, ou une force politique inclusive prête à gouverner avec d'autres forces politiques. Donc là encore, la vraie question, et je crois que pour tout cas du point de vue des Américains, c'était de rompre le lien avec le djihadisme international. Je crois qu'il faut pas trop attendre des talibans pour ce qui est de la gouvernance interne. Ce sont des acteurs conservateurs, ce sont des acteurs religieux qui ont une vision patriarcale en particulier de la société, et cette vision, elle va continuer de s'exprimer dans leur projet politique.
Vision très conservatrice des talibans. Anne-Clémentine Larocque, sur la rupture avec les mouvements djihadistes, terroristes, on voit l'État islamique du Khorasan continuer de perpétrer des attentats toutes les semaines quasiment, voire davantage, contre les Hazaras qui sont des chiites. Quelle lecture faire de cela ?
Bah, ce qui est intéressant, alors je souscris à ce qui a été dit auparavant, évidemment. En effet, il ne faut pas s'attendre des talibans. On a une représentation occidentale qui est dans l'attente d'une ouverture, d'une forme de démocratisation un peu partout dans le monde. Ça a déjà été dit de nombreuses fois. Les talibans ont plusieurs lignes. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a une ligne plus dure qui est issue de Kandahar, donc au sud-est du pays. Il y a une ligne, celle du Mollah Baradar, qui a été finalement l'interlocuteur le plus politiquement correct aussi pour les Occidentaux et pour les partenaires extérieurs comme la Chine. On se souvient du ministre des Affaires étrangères chinois qui rencontre justement le Mollah Baradar fin juillet dernier pour négocier la suite des événements qui allaient donc se produire en août. Et enfin, une troisième ligne, si je puis dire, au sein même des talibans, pour ça il n'y a pas non plus qu'un mouvement taliban, c'est le réseau Haqqani, hein, le lien avec ce réseau Haqqani historiquement connu, qui lui justement joue le rôle de pivot avec Al-Qaïda, hein, qui est quand même un partenaire qui a été reconnu depuis les années 90, la création des talibans en 1994. Al-Qaïda a pu effectivement être un partenaire. Il y a une forme de protection qui s'opère encore aujourd'hui entre certains talibans et certains chefs d'Al-Qaïda. En revanche, l'ennemi très clairement identifié aujourd'hui pour les talibans, c'est l'État islamique au Khorasan, comme vous l'avez dit, qui a été construit donc en 2015 officiellement, qui existe depuis 2014 officieusement, et qui en effet a pour but en fait de donner une nouvelle offre islamiste, mais pour le coup djihadiste, qui n'a pas la même visée déjà au niveau territorial que les talibans, puisque l'État islamique au Khorasan veut reconstituer cette région, ce wilayat d'antan du califat abbasside, qui s'étendait du nord de l'Iran dans les pays en ce temps actuel et une partie de l'Afghanistan. L'objectif, c'est justement encore une fois d'imposer un califat à terme, alors que les talibans ne sont absolument pas dans cet objectif-là, puisqu'ils veulent reconstituer un émirat islamique, l'émirat qui existait entre 1996 et 2001. Donc il y a une forte concurrence, des attentats, comme vous l'avez dit, extrêmement emblématiques. Celui du 26 août dans l'aéroport de Kaboul, c'était aussi pour discréditer, donc qui a été commis par l'État islamique au Khorasan, pour discréditer le pouvoir taliban. On a de nombreux actes qui se perpétuent effectivement en ce moment. Un attentat suicide a été commis le 8 octobre dans une mosquée chiite, donc à Kunduz, au nord-est, avec 60 morts, 140 blessés. L'objectif est quand même très clairement de vouloir discréditer le mouvement.
Alors, Anne-Clémentine Larocque parlait de forte concurrence, ce qui me pousse à aller plus loin avec cette question que je vous adresse à tous, et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des leçons qu'on peut tirer de l'Afghanistan pour le Sahel, et peut-être aussi d'éléments d'actualité sur la question du Soudan, marquée par une prise du pouvoir par les militaires à Khartoum. Awes Seniga, quel est le dénominateur commun à l'ensemble de la mouvance islamiste, qu'elle soit violente ou non violente?
Je pense qu'il faut utiliser les outils des sciences sociales pour éviter de particulariser par trop l'islam ou l'islamisme. En d'autres termes, il n'y a pas d'exception islamique ou d'exception islamiste. J'utilise volontiers l'expression ou le concept utilisé par Émile Poula, le sociologue français, l'intégralisme. Le dénominateur commun à l'ensemble ou de l'ensemble des mouvements islamistes, c'est l'intégralisme. Cette idée que la religion aurait quelque chose à dire au privé, au public, et que la religion pourrait fournir des capacités, des possibilités d'administration d'une cité. Ça, c'est le point commun à l'ensemble des islamistes, intégralistes donc, qu'ils soient légalistes ou dans l'action violente. Il y a deux autres types qu'on peut proposer, c'est l'intégralisme transigeant, c'est celui des islamistes légalistes qui s'inscrivent dans le temps institutionnel légal et qui renoncent à l'action violente. On a des exemples en Tunisie, au Maroc et ailleurs. Et les islamistes intransigeantistes, ceux qui agissent dans l'opposition et qui utilisent des moyens violents. Et puis, une dernière catégorie, on pourrait dire des islamistes minimalistes et des islamistes maximalistes. Minimalistes dans des contraintes institutionnelles, juridiques, culturelles, et des islamistes maximalistes, là où ils peuvent se développer sans frein. Et j'aimerais terminer par un point qui me semble saillant, c'est que les islamistes n'évoluent que sous la contrainte. Il n'y a pas de réforme motu proprio. C'est pas à partir de rien, c'est pas in abstracto de situations déterminées que les islamistes vont évoluer. Mais plus les islamistes s'intègrent au jeu institutionnel, plus ils sont amenés, vous m'autoriserez ce mot d'humour, à mettre du vin dans leur eau.
Stéphane Lacroix, sur cette question.
Oui, je partage là aussi ce qui a été dit. Ce sont des acteurs qui considèrent qu'il y a du politique dans le religieux et du religieux dans le politique, et que donc la cité doit être administrée selon des principes qui sont tirés des enseignements religieux. C'est généralement incarné par un projet, qui est le projet un peu historique de l'islamisme, qui est celui de l'État islamique. Pas simplement, d'ailleurs, dans la version adoptée par cette dernière organisation qui s'est appelée État islamique, mais depuis les Frères musulmans, le projet politique final, l'utopie, si vous voulez, politique qu'ils cherchent à incarner, c'est ce qu'ils appellent l'État islamique, c'est-à-dire l'idée d'un État moderne, mais qui serait gouverné par le droit religieux. C'était ça toute la question fondamentale pour les islamistes. Ce sont des projets qui, effectivement, aujourd'hui, semblent avoir un peu perdu en attrait pour une partie des populations, parce que effectivement, les islamistes, quand ils ont été au pouvoir, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, ils ont dû se heurter aux réalités du politique. Et c'est vrai que voilà, ce qui était au départ un projet utopique avait un attrait parce que précisément il était une utopie, c'est-à-dire la promesse de créer sur Terre la cité vertueuse. Bon, cette promesse aujourd'hui, effectivement, après 10 ans en Tunisie de tergiversations, de manœuvres politiques du parti Ennahda, mais même en Égypte, je veux dire, de la confrontation avec le réel, a fait que cette idée que finalement le religieux aurait toutes les solutions pour gouverner vertueusement la cité, je crois qu'aujourd'hui c'est une idée qui bat un peu de l'aile. Ce qui ne veut pas dire que le religieux ne reste pas intimement lié au politique dans les sociétés du monde arabe. Et on le voit même avec les régimes en Égypte ou même ici en Tunisie qui remplacent des partis islamistes. En Égypte, le maréchal Sissi lui-même, en fait beaucoup de religieux dans sa politique. C'est-à-dire que même quand ce sont des soi-disant anti-islamistes qui prennent le pouvoir, ils ne séparent pas non plus la référence religieuse de la référence politique. Donc, il y a d'un côté, si vous voulez, les islamistes comme organisation incarnant une utopie qui battent de l'aile, et d'un autre côté, il y a la question du religieux dans le politique qui reste une question de tous les pouvoirs autoritaires du monde arabe, même quand ils se présentent comme étant anti-islamistes. Donc, je crois qu'il faut distinguer aussi le niveau des organisations, le niveau du discours.
Anne-Clémentine Larocque, un commentaire après ça. J'aimerais qu'on aborde la question du déclencheur du fanatisme. On a bien vu la complexité, finalement, évoquée par les uns les autres de l'islamisme aujourd'hui, des différents mouvements islamistes. Mais peut-être, première réaction à ce qui a été dit par Awa Sénéguer et Stéphane Lacroix.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi dans un moment de mutation, donc qui s'est amorcé en 2011, et qu'effectivement il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer. En tout cas, entre les groupes islamistes, si on peut les qualifier comme ça, on a véritablement des choix qui ont dû être faits aussi. Si on prend par exemple l'exemple de la Tunisie encore, quand Ennahda a dû effectivement continuer ou pas d'intégrer sa vision de la charia dans cette conception nouvelle de la constitution tunisienne, avec un débat qui a été posé entre certains membres de justement Nahdawi. Et finalement, en 2016, on a cette volonté finalement de spécialiser politiquement le parti et de finalement de se départir de la matrice religieuse et idéologique religieuse. Ça, c'est quand même, en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec Stéphane, le fait qu'il faut distinguer le discours de ce qui est fait réellement. Et en fait, en réalité aussi, je pense qu'il faut appuyer sur une chose, en tout cas, concernant les partis qui ont été élus en Tunisie et au Maroc, il y a aussi une distinction à faire entre les générations. La génération de Rachid Ranouchi et la génération actuelle des jeunes Nahdaouis qui, effectivement, s'intègrent aux nouvelles structures étatiques, politiques de la Tunisie, ce ne sont pas les mêmes, avec des référents qui ne sont plus les mêmes. Et on a aussi, évidemment, des concurrences qui peuvent se faire, des divisions qui existent. Donc la sociologie a fondamentalement changé dans ces groupes qui sont des groupes éponymes des frères musulmans, mais qui, effectivement, sont en train tout de même d'évoluer. Pour également sortir du champ du Maghreb et ouvrir un peu plus au Moyen-Orient et du lien justement avec ce qui a pu se passer en France en octobre 2020 suite à l'attentat notamment de Samuel Paty, de ce qui s'est passé devant les locaux de Charlie Hebdo ou de ce qui s'est passé à Nice. Souvenons-nous aussi d'une chose, c'est que certains chefs d'État ont pu aussi totalement radicaliser leur discours pour protéger justement la réputation du prophète au nom du religieux contre la France. Et finalement, il y a eu une sorte d'intrication, c'est la première fois que ça arrive, médiatique, entre le discours de groupes islamistes, de groupes même djihadistes, ACMI par exemple, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et un discours de l'émir du Qatar ou d'Erdogan en Turquie, ou même du président de la République en Iran et des partis iranien. Donc si vous voulez, on a aussi aujourd'hui toute une intrication qui se fait et qui ne joue pas, je dirais, en la faveur finalement de l'islam, dans le sens où les islamistes ou certains groupes djihadistes peuvent avoir un discours qui a des porosités. Ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut identifier, je trouve.
Alors, ce que je retiens tout de même de ce qui s'est dit jusqu'à présent, on a beaucoup évoqué et ces termes sont arrivés de façon très récurrente, concurrence, division, diversité. On sent bien que la question de l'islam est aussi très fortement une question d'homme, une question de personnalité. Si on devait comparer avec l'Église catholique qui a un chef pour l'islam, eh bien il n'y a pas de gouvernance. Est-ce qu'on peut imaginer et est-ce qu'apparaît cette nécessité d'une gouvernance de l'islam, où ma question est totalement décalée à Westlinger? C'est une réponse un peu courte que je vous demande et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. On a 2 minutes devant nous.
Je ne vais pas botter en touche, mais disons que le sociologue dit ce qu'il y a, éventuellement que ce que l'on s'apprête à faire n'est pas bon, mais dire ce qu'il faudrait faire, ça me paraît difficile. Mais je retiendrai en revanche une belle formule de l'islamologue Mohamed Harkoun, qui disait la chose suivante: l'islam, notamment sunnite, est théologiquement protestant et politiquement catholique. En d'autres mots, il y a une possibilité de s'approprier à titre individuel le texte coranique, les traditions prophétiques, et politiquement, il y a cette tentation au sein des mondes de l'islam sunnite, même s'il n'y a pas officiellement de clergé, à une monopolisation du discours et de ce que doit être l'islam. Et en effet, même s'il n'y a pas de clergé dans le sunnisme, il y a un clergé qui prédomine, et c'est un clergé, je dirais, à dominante hyper-conservatrice. Pas forcément, pas nécessairement islamiste, mais à tout le moins très conservatrice. Donc c'est aux musulmans de répondre plus précisément à la question de ce qu'ils souhaiteraient faire.
Est-ce que quelque chose émerge dans un sens ou dans un autre, Stéphane Lacroix ?
Moi, je voudrais juste compléter peut-être le point de Hawes. Le religieux imprègne le politique dans cette partie du monde. Et donc, les islamistes n'ont pas le monopole de l'imprégnation du politique par le religieux. Dès lors, moi, je m'interroge même sur l'utilité de la catégorie islamiste, en vérité. C'est-à-dire que ce sont des partis qui, certes, appartiennent à une tradition partisane qu'on peut identifier, les frères musulmans, puis on voit comment tout ça se subdivise, comment des choix stratégiques sont opérés entre des organisations qui vont jouer le légalisme ou la violence. Mais si on doit distinguer les islamistes du reste par l'idée de l'imprégnation du politique par le religieux, ça ne les distingue pas en réalité. C'est-à-dire que si on part d'une définition aussi large, le président Sisi est islamiste en Égypte, parce que lui-même, en fait, fait en permanence des allers-retours. Y compris d'ailleurs sur ces histoires de blasphème ou de Charlie Hebdo. Les États du monde arabe qui eux-mêmes se disent laïcs entre guillemets, font de la surenchère sur ces mêmes questions. Donc, pour ce qui est des islamistes, il faut peut-être aussi reposer le problème de définition qui, quelquefois, à mon avis, obscurcit plus qu'il n'éclaire.
On vous retrouve, Stéphane Lacroix, avec Anne-Clémentine Larocque et Awes Senninger après le journal. À tout de suite.
Vous voulez réinventer la société géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Anne-Clémentine Larocque, analyste, historienne pour la justice, spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales, auteur de Géopolitique des islamismes aux presses universitaires de France et Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, également aux presses universitaires de France, en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Chambéry, à Awes Senninger, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman et auteur de Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste aux éditions Au bord de l'eau, et par téléphone depuis la Tunisie, Stéphane Lacroix, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po, chercheur aux séries de Sciences Po et co-auteur avec Jean-Pierre Filiou d'un ouvrage paru en anglais, non traduit en français, mais dont voici la traduction du titre, Revisiter les printemps arabes, les politiques d'un moment révolutionnaire aux presses universitaires d'Oxford. Anne-Clémentine Larocque, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de l'islamisme dans le monde ?
Alors, de manière très schématique, je dirais que l'islamisme a gagné du terrain quand même durant les 20 dernières années. Il s'est aussi diversifié fortement, c'est-à-dire que vous avez des États qui sont effectivement l'incarnation du lien entre le religieux et le politique. Par exemple, aujourd'hui, l'Iran, les talibans également. On a évidemment aussi des régimes de charia en Arabie Saoudite, mais aussi si on prend l'Égypte, vous avez quand même une grosse partie de la législation en fait égyptienne qui se réfère à la charia, avec donc des distinctions à faire, des degrés différents. Puis vous avez aussi des islamistes qui sont associés au pouvoir, par exemple en Tunisie actuellement avec ce parti Ennahda qui représente la première force politique. On a le PJD qui a existé et qui a été longtemps associé au pouvoir marocain en étant au gouvernement et majoritaire au Parlement et qui a échoué aux dernières élections. Vous avez effectivement donc ces groupes officiels légaux frères musulmans. Puis ensuite on va avoir aussi la clandestinité, je dirais, de l'islamisme, c'est-à-dire tous les groupes qui vont utiliser l'action violente pour exister. Par exemple, donc évidemment, tous les groupes djihadistes que l'on connaît au Sahel, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak, l'État islamique, Al-Qaïda, mais il y a aussi d'autres groupes, les Shebab, Boko Haram, qui sont en lien, qui sont en allégeance, mais qui peuvent être encore différenciés, ou en Asie du Sud-Est, encore d'autres groupes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'idéologie salafiste, qui vient aussi nourrir un discours qui peut être porté politiquement, mais qui n'est pas nécessairement politique, puisque le salafisme est quiétiste majoritairement, et peut servir donc au discours, bien évidemment, des djihadistes, puisqu'on parle de salafo-djihadisme. Donc, vous voyez, les distinctions sont très nombreuses et en même temps, il faut les faire dans le sens où il faut apporter un tout petit peu de nuance à ce que l'on peut entendre. On ne pourra pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais globalement, ce qu'il faut concevoir comme idée, c'est que l'islamisme s'est répandu, s'est diversifié, a échoué à certains endroits et est plutôt, en fait, aussi sur le devant de la scène médiatique, notamment, dans différents territoires du monde.
Alors, pour ce qui est éventuellement des échecs, et j'aimerais qu'ensuite on aborde la question de la volonté de certains pays de devenir une puissance religieuse de dimension mondiale. Mais pour commencer, qu'est-ce que l'on peut penser de la large défaite évoquée à l'instant du parti islamiste du PJD au Maroc en septembre dernier, alors que dans l'Algérie voisine, c'est le parti islamiste, le MSP, qui revendique la victoire des législatives de juin dernier à Awes Senninger?
Cette observation montre bien qu'il y a une diversification des partis politiques, une diversité des partis politiques à référence islamique ou islamiste, selon les contextes, selon les moments. Je crois que la question de l'échec est une question piégeuse à certains égards, puisque le mouvement islamiste s'appuie sur deux jambes. Une jambe religieuse, la prédication, le fait de labourer le terrain social, la proximité avec la population, et la jambe politique, si je puis dire, c'est-à-dire la participation régulière aux élections. Le PJD a intégré le Parlement en 97, après un parcours dans la clandestinité puis dans l'opposition, et il s'est confronté à partir de 2011 à la gestion gouvernementale, avec des expériences communales également, à partir de 2003. Et le PJD a fait l'épreuve de la difficulté qu'il y a de passer d'un discours religieux, essentiellement religieux, à un discours politique. Mais dans le cas marocain, ce qui est tout à fait intéressant et qu'il faut relever, c'est que c'est à la fois les impasses de l'islamisme lui-même à l'épreuve du pouvoir, mais aussi les dispositifs extérieurs qui limitent ses marges d'action. Le PJD, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, il était associé à d'autres partis politiques. D'ailleurs, un gouvernement très hétérogène au plan idéologique. Parce que le roi a toujours fait en sorte à éviter à ce qu'il y ait un parti hégémonique, quel que soit son référentiel. À une époque, c'était l'Istiqlal, puis ça a été l'USFP, Union Socialiste des Forces Populaires, puis aujourd'hui, c'est le PJD qui s'est heurté au Marzen. Ça ne veut pas dire que les islamistes ne sont pas responsables de l'incurie dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, mais les éléments extérieurs, le fait qu'il n'ait pas une marge d'action suffisante et l'incapacité à répondre aux promesses qu'ils ont contractées, notamment la lutte contre le chômage, la lutte contre la corruption, les a amenés à échouer. On pourrait ajouter bien d'autres choses, notamment le système électoral taillé sur mesure afin qu'il n'y ait pas de parti qui vienne concurrencer directement le roi.
Alors, les pays qui ont la volonté de devenir une puissance religieuse de dimension mondiale, Stéphane Lacroix, l'Arabie Saoudite qui abrite, comme on le sait, les lieux saints, la Turquie également d'Erdogan qui tente de refaire d'Istanbul le centre de l'islam mondial. Comment se manifeste la concurrence entre ces deux puissances et autre question, l'Asie qui compte le plus grand nombre de musulmans au monde, des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, est-ce qu'ils se positionnent dans cette compétition mondiale de course à la puissance religieuse ?
Oui, alors le religieux est une ressource dont, là encore, est fait un usage politique. Et donc un certain nombre d'États qui, par leur histoire ou par leur localisation géographique, peuvent faire usage de cette ressource, vont en faire usage. Donc l'Arabie Saoudite étant le pays des deux lieux saints, la Mecque et Médine, évidemment ça va occuper une part importante dans son soft power, dans toute la construction à la fois d'une image, mais aussi de réseaux d'influence qui s'appuient sur cette revendication religieuse. Et effectivement, ce qu'on a vu depuis une quinzaine d'années, c'est que la Turquie, avec son passé ottoman, et dans ces cas-là, c'est plus l'histoire ottomane qui va être mise à contribution, va chercher là aussi à construire des relations, se bâtir une image, une popularité auprès des populations musulmanes en jouant de cette histoire. Donc, ce qu'il faut évidemment toujours rappeler, et vous avez raison, c'est que dans le champ de la compétition pour le religieux, il n'y a pas que les islamistes. Il y a les islamistes et des États qui joue exactement le même jeu, c'est-à-dire on se bat pour la ressource religieuse et le contrôle de la ressource religieuse et les bénéfices politiques qu'on peut tirer de la ressource religieuse. Et cette compétition, elle se fait entre organisations, États, et effectivement, vous l'avez mentionné, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui sont très en pointe sur cette incarnation étatique de la ressource religieuse. Et puis, bon, pour ce qui est de l'Asie du Sud-Est, ça va se faire aussi, mais à mon avis, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que, d'abord parce que les musulmans d'Asie du Sud-Est et les musulmans du Moyen-Orient ne parlant pas la même langue, les interactions, en fait, sont quand même beaucoup plus limitées. Et puis parce que le cœur de l'histoire islamique, il reste quand même essentiellement autour de la Mecque et Médine ou des grands empires centraux qui sont dans la proximité du Moyen-Orient. Donc il y a quelque chose de plus périphérique en Indonésie ou en Malaisie, alors même que l'Indonésie est le plus grand pays musulman en termes numériques. Mais c'est vrai que son influence, ou en tout cas l'influence qu'il va exercer sur le reste des musulmans, est moins importante du fait de cette localisation un peu plus périphérique, mais aussi de cette relative marginalité linguistique par rapport au reste du monde musulman. Maintenant, ils incarnent quelque chose. La Malaisie est un pays qui fait beaucoup rêver parmi les musulmans, parce que c'est un pays qui a acquis une certaine prospérité, un niveau de vie relativement élevé par rapport aux autres pays musulmans, qui apparaît comme incarnant une sorte de synthèse entre la modernité, le capitalisme, l'islam, et donc qui, voilà, fait rêver, et on voit d'ailleurs beaucoup de touristes du monde arabe qui se rendent en Malaisie pour voir de leurs yeux cette incarnation de ce modèle. Mais ils sont un peu plus marginaux, malgré tout, dans la grande compétition que se livrent les pays du Moyen-Orient pour le contrôle de la ressource islamique.
Alors, Anne-Clémentine Larocque, j'évoquais donc la volonté de la Turquie d'Erdogan de tenter de refaire d'Istanbul le centre de l'islam mondial. Vous écrivez dans votre ouvrage que la fin du califat ottoman constitue un trou historique dans le monde musulman.
Absolument. Le trou identitaire, donc le titre de mon ouvrage, est en lien avec les individus, mais les territoires, et aussi l'histoire, évidemment, des territoires. Et quand on écoute le discours actuel de certains islamistes, mais aussi de terroristes islamistes, donc qualifiés par l'institution judiciaire française terroristes, il y a quelque chose qui m'a questionnée sur le référencement, c'est-à-dire ce manque de quelque chose qu'on veut incarner. Et en 1924, le sultanat califat définitivement ottoman n'est plus, et ça, effectivement, ça produit une sorte de trou dans l'islam sunnite notamment, mais pas que. Et effectivement, j'ai vu une chose, c'est que 90 ans plus tard, on a la création de l'État islamique qui réincarne un califat. Abou Bakr al-Baghdadi s'autoproclame calife. Et dans ce cadre-là, je me suis questionnée aussi sur l'écho, la résonance qui existait entre ce que mettait en place l'organisation État islamique, mais aussi un personnage comme Erdogan. Et d'une certaine manière, alors avec un autre style, effectivement, la monarchie d'Arabie Saoudite, qui à la fin des années 80, eh bien, a dû se réinstituer un titre qui n'existait pas, qui est celui des protecteurs des lieux saints de Médine et d'Amèque. Erdogan, lui, veut se faire le chantre, le défenseur de l'islam sunnite. Il a très bien compris que ça fonctionnait politiquement, et je dirais que lui ne veut pas redevenir calife, mais plutôt sultan, avec un imperium justement très important, avec une coloration évidemment religieuse et politique, alors que, on se dirait, l'État islamique a voulu, lui, vraiment plaquer ce qui manquait et ce que la machine à fantasmes, en fait, était en train de créer dans la tête de nombreux musulmans qui voulaient devenir autre chose que ce qu'ils sont. C'est pour ça que je pense que le trou posé en 1924, il est très intéressant à étudier, puisque 4 ans plus tard, on a la création de la confrérie des frères musulmans. On a des mouvements, effectivement, qui s'incarnent au XXe siècle islamistes, qui vont, je trouve en tout cas, en Inde, au Moyen-Orient, chercher justement à combler ce trou du califat.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, j'aimerais que, à ce stade de l'émission, on aborde la question des frères musulmans qui reçoivent un soutien particulièrement fort à la fois de la Turquie qu'on vient d'évoquer, également le Qatar. La question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement où les frères musulmans mènent-ils leurs combats les plus forts ? Et finalement, est-ce que l'on peut craindre, après les échecs des frères musulmans dans un certain nombre de pays arabes, un regain d'activisme en Europe occidentale ? Certains observateurs notent que l'Europe serait une terre d'influence des frères musulmans et que la France serait trop passive à leur égard, alors que ces derniers œuvrent insidieusement à peser sur les décisions politiques. Votre opinion, Aouez Séninger ?
Écoutez, là aussi, je serais nuancé, pas par posture, mais parce qu'il y a des complications du réel, comme dirait Merleau-Ponty. C'est-à-dire que aujourd'hui, les activistes islamistes en France, qui sont plutôt à tendance légaliste, je songe à Musulmans de France, ex-Union des organisations islamiques de France. Au contraire, leur objectif aujourd'hui, c'est de normaliser leur présence dans le champ socio-religieux. En d'autres mots, ils savent qu'ils sont sous les feux des projecteurs, et pas en bien. On le voit avec l'action publique en France, qui lutte avec un déploiement de lois et de mesures luttant contre des formes de séparatisme. Et par conséquent, évoluant sous ce faisceau de contraintes, les frères savent qu'ils doivent se tenir à carreau, si je puis dire, et respecter très scrupuleusement la loi. Donc je ne pense pas que ça soit un mouvement très puissant, au moins en France en tout cas. Si l'on regarde le haut du spectre avec Musulmans de France, c'est un mouvement qui regroupe à peu près 300 associations, peut-être un peu plus ou un peu moins, qui n'appelle pas la création d'un parti politique, qui n'appelle pas la création d'un lobby, qui n'a pas vocation dans le discours et dans les actes à islamiser les lois françaises, mais plutôt à donner des gages à la fois au pouvoir politique et aux sociétaires de leur parfait légalisme. Je note qu'en 2015, il y a eu d'ailleurs un sursaut encore plus significatif. Beaucoup d'acteurs qui s'inscrivent dans le courant des frères musulmans légalistes ont condamné fermement, ils le faisaient déjà auparavant, mais ils le faisaient encore avec beaucoup plus de bruit après 2015, pour qu'il n'y ait pas de lien posé entre le radicalisme violent, le djihadisme, et l'action que eux mènent sur le territoire français.
Alors, pour ce qui est des frères musulmans, Stéphane Lacroix, on a vu l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, mais pas seulement eux, il y a aussi l'Égypte, considérer les frères musulmans comme une organisation terroriste. Pour l'Europe, la question ne s'est pas posée jusqu'à ce que l'Autriche interdise la confrérie en juillet dernier, grâce à sa nouvelle loi antiterroriste. On parle de naïveté des Européens.
Non, alors je pense que là aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Aouès. L'Arabie Saoudite et les Émirats et l'Égypte considèrent les frères musulmans comme terroristes parce que ce sont des adversaires politiques qu'ils criminalisent pour les écraser politiquement. On est dans une concurrence qui est avant tout politique. Mais je veux dire, la qualification de terroriste, elle n'a pas de... quand on regarde la pratique politique des frères musulmans depuis plusieurs décennies, on peut considérer que les frères musulmans sont des acteurs conservateurs, intransigeants, etc. En tout cas, ils ne pratiquent pas la violence politique. Et ils la condamnent même, que ce soit en France ou ailleurs. Donc aujourd'hui, ces États-là ont poussé l'idée d'une confrérie qui serait fondamentalement terroriste pour la criminaliser, pour régler des comptes politiques au Moyen-Orient. Et cette idée, ils cherchent à l'exporter vers l'Europe. Et dans toute une partie de la campagne contre les frères musulmans en Europe, il y a aussi une influence qui s'exerce depuis Abu Dhabi, depuis Riyad, qui cherche là encore à régler des comptes politiques en interne, en maniant ce qualificatif dont on sait qu'il est éminemment politique, de terroriste. Donc, moi je trouve plutôt rassurant que pour le moment l'Europe n'ait pas cédé. L'idée n'est pas du tout de dire que les frères musulmans sont des acteurs dont il faudrait les trouver sympathiques, c'est pas du tout la question, ce sont des conservateurs, intransigeants, fondamentalistes, tout ce qu'on veut, mais là encore les mots ont un sens, et donc ce qualificatif de terroriste, à mon avis, il est heureux qu'il n'ait pas été utilisé dans le droit européen pour le moment, parce que ça indiquerait clairement une dérive.
Alors, Clémentine Arocque, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à cela. Oui. Moi, j'avais une question aussi pour vous, alors que le procès du Bataclan a cours depuis plusieurs semaines et va se poursuivre encore, attentat donc de 2015. Dans votre ouvrage, vous dites qu'on interroge trop peu souvent l'histoire des familles où s'inscrit les garment de ces individus. Commentaire.
Je vais faire un commentaire là-dessus, mais d'abord je ferai un tout petit commentaire par rapport à ce qui a été dit. Évidemment, il faut se réjouir du fait qu'il n'ait pas été qualifié d'organisation terroriste. Ce serait quand même tout à fait incongru par rapport aux faits et à la matérialité des faits qu'on peut leur reprocher. En revanche, l'UOIF a quand même été à l'origine, donc créé en 1983, un petit peu le modèle quand même de ce que les autres organisations frères musulmans en Europe ont pu devenir dans le cadre de l'UOIE à l'échelle européenne. Ensuite, je dirais tout de même que les musulmans de France, oui, cherchent à se tenir à carreau, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une volonté aussi de communautarisme et d'entrisme qui puisse exister. Alors ça, après, est-ce qu'on doit qualifier que c'est mal ou bien ? Je suis pas là pour le faire, mais en tout cas, il faut regarder aussi ce qui se fait au sein des associations, au sein des instituts privés, des instituts européens de sciences humaines qui ont été créés donc sous l'impulsion des Français et qui sont au nombre de 8 en Europe aujourd'hui. Il y a quand même une volonté d'existence, effectivement, qui a une dimension culturelle, voire politique, qui peut interroger. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour répondre à votre question sur l'échelle familiale, c'est ça ?
Oui, vous disiez qu'on interrogeait trop peu souvent l'histoire des familles où s'inscrit l'égarement de ces individus donc, qui ont perpétré...
Tout à fait. La tendance est toujours à vouloir schématiser, à vouloir mettre des grandes typologies en place. Et effectivement, en travaillant sur les dossiers, en regardant en tout cas le parcours, les trajectoires, il y a des choses communes, notamment l'émigration en France, à un moment donné, par les familles, et ce que ça a pu produire en termes de transmission, de pourquoi on est immigré. Pourquoi on a immigré chez l'ancien colonisateur pour certaines familles d'origine maghrébine ? Ça, c'est une chose commune. En revanche, il faut toujours regarder en effet l'histoire familiale, l'histoire des origines de cette famille, ce qui a été effectivement perpétué dans la mémoire familiale. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer quand on voit les rejaillissements aujourd'hui identitaires, c'est pas religieux du tout, mais identitaires de ces individus qui sont ensuite jugés pour terrorisme.
Et vous parlez de non-transmission, de non-communication.
On a tué, le silence a tué beaucoup de choses et notamment la mémoire de ces familles. Oui.
Alors, juste pour terminer, ce chiffre donné par le centre de recherche américain Pew Research Center, l'Europe comptait 25,8 millions de musulmans en 2016, soit 4,9% de la population totale. Merci Anne-Clémentine Larocque. Je rappelle que vous êtes analyste historienne pour la justice, spécialiste de l'idéologie islamiste et chargée de cours à Sciences Po en questions internationales, auteur de Géopolitique des islamismes aux presses universitaires de France et Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam, également au PUF. Merci aussi à Wes Senninger qui était avec nous en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Chambéry. Wes Senninger qui est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle, directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman et auteur de Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste aux éditions Au bord de l'eau. Et Stéphane Lacroix qui était avec nous par téléphone depuis Tunis, professeur associé à l'École des affaires internationales de Sciences Po, chercheur aux séries de Sciences Po et co-auteur avec Jean-Pierre Filiou d'un ouvrage paru aux presses universitaires d'Oxford, donc en anglais, dont le titre est en français « Revisiter les printemps arabes, les politiques d'un moment révolutionnaire ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons du Nicaragua où Daniel Ortega entend le 7 novembre prochain se succéder à lui-même.